Chapitre 2. C'était la plus grande et la plus ancienne des créatures peuplant la forêt, jadis connue sous le nom de Grand Bois du Couchant. La plupart des immenses ormes que Roland avait remarqués dans la vallée n'étaient que des arbustes pointant timidement du sol lorsque l'ours avait surgi des marches inconnues du hors-monde comme un roi vagabond et violent. Jadis, le vieux peuple avait vécu dans les bois du couchant. C'étaient ces vestiges que Roland avait trouvés au cours des semaines précédentes. Et il avait redouté l'ours colossal et immortel. Les guerriers avaient tenté de le tuer lorsqu'ils avaient découvert que leur peuple n'était pas seul dans le nouveau territoire qu'il avait revendiqué. Même si leurs flèches le mettaient en rage, elles ne lui causaient aucun dommage sérieux. Et il n'avait aucune peine à localiser la source de son tourment, contrairement aux autres animaux de la forêt, y compris les grands chats prédateurs qui creusaient leurs tanières dans les collines sablonneuses de l'Est. Non, il savait d'où venaient les flèches, cet ours-là. Il le savait. Et pour chaque flèche qui perçait sa chair sous la masse de sa fourrure, il massacrait 3, 4, voire une demi-douzaine de membres du vieux peuple. Des enfants, quand il le pouvait, des femmes, quand il ne le pouvait pas. Quant aux guerriers, il les méprisait, et ils en étaient d'autant plus humiliés. Finalement, lorsque sa véritable nature leur apparut, ils cessèrent d'essayer de le tuer. C'était bien entendu un démon incarné ou l'ombre d'un dieu. Ils l'appelèrent Mir, ce qui signifiait dans la langue du vieux peuple le monde en dessous du monde. Il mesurait plus de 20 mètres de haut, et après avoir régné plus de 18 siècles sur les bois du couchant, il se mourait. Peut-être la cause première de sa mort était-elle un micro-organisme présent dans sa provende. Il s'agissait plus probablement d'une combinaison des deux. Peu importait la cause. Le résultat, une colonie de parasites dévorants en expansion rapide dans son cerveau fabuleux, ne faisait aucun doute. Après des années de lucidité brutale et calculatrice, Mir était devenu fou. L'ours savait qu'il y avait de nouveau des hommes dans sa forêt. Il régnait sur cette forêt et, en dépit de son immensité, rien de ce qui s'y produisait d'important n'échappait très longtemps à son attention. S'il s'était tenu à l'écart des nouveaux venus, ce n'était pas parce qu'il les craignait, mais parce qu'il n'avait rien à faire avec eux, ni eux avec lui. Puis, les parasites s'étaient mis à l'œuvre, et à mesure que sa folie s'accroissait, il avait acquis la certitude que le vieux peuple était revenu, que les poseurs de pièges, les brûleurs d'arbres étaient revenus, et allaient bientôt se livrer à leurs bonnes vieilles activités stupides et malicieuses. Gisant dans sa dernière tanière à une 50 kilomètres du lieu où les nouveaux venus s'étaient établis, plus malade à l'aube qu'il ne l'avait été au crépuscule, il en était venu à croire que le vieux peuple avait enfin trouvé une arme efficace. Le poison. Cette fois-ci, il ne venait pas se venger d'une blessure bénigne. Il venait les exterminer jusqu'au dernier avant que le poison n'eût raison de lui. Et toute pensée déserta son esprit lorsqu'il se mit en route. Il n'avait conscience que de sa rage écarlate, du bourdonnement éraillé de la chose plantée sur sa tête, la chose qui tournait entre ses oreilles et qui avait jadis fait son travail dans un silence apaisant, et de son odorat étonnamment développé qui le conduisait droit sur le camp des trois pèlerins. L'ours, dont le nom n'était pas Mir mais tout autre chose, s'avançait dans la forêt comme un building en marche, une tour velue aux yeux d'un brun rougeoyant. Ses yeux luisaient de fièvre et de démence. Son énorme tête, à présent ornée d'une guirlande d'aiguilles de pin et de branches cassées, ne cessait de dodeliner. De temps en temps, il éternuait dans une explosion étouffée. Et des nuages de parasites blancs et grouillants se déversaient de ses narines. Ses pattes, qui se terminaient par des griffes longues d'un mètre, déchiquetaient les arbres devant lui. Il marchait droit, laissant des traces profondes dans l'humus noir. Il empestait le baumier frais et la vieille merde. La chose plantée sur sa tête bourdonnait et couinait, couinait et bourdonnait. La trajectoire de l'ours était presque rectiligne. Une ligne droite qui le conduirait au camp de ceux qui avaient osé revenir dans sa forêt, qui avaient osé emplir son crâne d'un supplice vert sombre. Nouveau peuple ou vieux peuple, ils allaient mourir. Quand ils tombaient sur un arbre mort, ils faisaient parfois un détour pour l'abattre. Le rugissement sec de sa chute l'emplissait de plaisir. Lorsque le tronc pourri de l'arbre s'était effondré sur le sol ou couché sur un de ses congénères, l'ours reprenait sa route sous les rayons obliques du soleil que des essaims de sciure transformaient en brume dorée.